Climat, l'échauffement des esprits, Benoît Rito, Richard Fremder.
Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce Climat, l'échauffement des esprits, deuxième numéro, en compagnie de Benoît Rito, évidemment, fraîchement débarqué des États-Unis. Ça va, Benoît? Pas trop de jet lag, ça va être un peu dur, hein, en passant de l'un à l'autre. Avec en plus cette satanée heure d'été qui a dû vous mettre un peu plus la tête à l'envers, non? Pas du tout. Rendez-moi cette heure qu'on nous a prise. Non, même pas. Bon, c'est beau. Alors, sommaire important, là encore aujourd'hui, puisque nous recevons Rémi Prudhomme, dont le CV, si je le lisais intégralement, prendrait la moitié de l'émission. Donc, je vais pas le faire, mais comme on dit, ça vous pose un homme. Alors, je vais quand même vous présenter, monsieur Prudhomme. Vous êtes professeur émérite à l'Institut d'urbanisme de Paris, professeur au MIT, professeur à l'École nationale des ponts et chaussées, directeur adjoint de la direction de l'environnement de l'OCDE. Vous avez été consultant pour la Banque mondiale, pour l'OCDE, pour l'UNESCO, pour le gouvernement des États-Unis, pour la municipalité de Venise. Si je lisais tout, le CV fait 12 pages. Surtout, vous y tenez, et je le comprends, vous m'avez dit, vous êtes également fils de paysan élevé à la campagne. Bonjour, Rémi Prudhomme.
Bonjour, je suis pas tout ça à la fois.
Vous avez été tout ça.
C'est au terme d'une longue vie que vous avez une longue liste d'activités que vous venez de mentionner.
Mais en tout cas, c'est très impressionnant. Franchement, très très impressionnant. Alors, quand on regarde vos prises de parole, que ce soit dans la presse, dans des ouvrages, vos interventions qui peuvent être filmées pour Internet, etc., un de vos chevaux de bataille, c'est l'énergie alternative, en tout cas c'est ce que j'ai pu lire, et plus précisément, la transition énergétique. Qu'est-ce qui vous a amené sur ce sujet?
Ce qui m'a amené à m'intéresser à la transition énergétique, c'est l'intérêt que j'ai porté au problème du climat. Parce que il faut peut-être faire un bref retour sur le climat, ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas. Alors, il y a au moins quatre épisodes. Le premier concerne l'évolution des températures, question sur laquelle on est d'accord pour dire qu'il y a une hausse des températures.
Ce qu'on a rappelé dans le premier épisode, oui. Effectivement.
Il y a la question des causes de cette élévation de température, où là, il y a un désaccord entre ceux qui en voient une seule et ceux qui en voient beaucoup, et ceux qui ne voient pas grand-chose, parce que tout ça est très compliqué. Il y a troisièmement les conséquences d'une éventuelle élévation de température, qui sont souvent présentées comme désastreuses et qui, dans beaucoup de cas, ne le sont pas, ou pour lesquelles on n'a pas de raison très sérieuse de s'inquiéter considérablement. J'insiste là-dessus parce qu'on entend tous les jours des gens nous dire, encore aujourd'hui à la radio, j'entendais des gens parler de toutes les conséquences des épisodes extrêmes, comme l'on dit, causés par l'homme, y compris les tsunamis, qui n'ont rigoureusement rien à voir, comme même les climato-crédules les plus vigoureux ne suggèrent pas être liés le moins du monde à l'action de l'homme. Et puis il y a ce qui découle de tout cela, qui sont les politiques qu'il faudrait conduire relativement au climat. Alors, ces politiques se résument en fait en un mot, réduire les rejets de CO2 du globe. Et lorsque l'on cherche à savoir comment, il n'y a pas tellement de choses concrètes qui sont proposées. Il y a de mieux calorifuger les immeubles pour qu'il n'y ait pas de déperdition de chaleur. Ça, c'est un pan important pour lequel, dans beaucoup de pays, des dépenses considérables sont proposées.
Et qui fonctionnent, ou pas?
Qui fonctionnent comme tout jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être faites et qui vont effectivement, à un coût raisonnable, réduire la consommation d'énergie et donc, par voie de conséquence, réduire des rejets de CO2, oui. Mais il y a aussi des choses totalement déraisonnables qui impliqueraient des dépenses absolument hors de propos, hors de considération, hors du gain qui en termes de réduction de CO2 qui s'y attacherait. Donc ça, c'est un premier pan de l'activité qui est proposée, d'une, ce à quoi correspond une politique du climat. Il y en a un deuxième qui est de ne pas se déplacer en automobile, parce qu'il est vrai que rouler en automobile entraîne des rejets de CO2, de deux ou trois autres choses aussi qui ne sont pas nécessairement très désirables.
Parce qu'à Paris, on va rouler de moins en moins en voiture, hein, parce que.
Bah, à Paris, on roule déjà de moins en moins en voiture. On nous explique cependant qu'il y a de plus en plus de pollution, oui, et que la pollution dépend totalement des automobiles. Il y a entre ces trois propositions
un paradoxe, certain.
des liens que la logique réprouve. Donc ça, c'est un thème important auquel je me suis beaucoup intéressé parce que j'ai beaucoup travaillé sur les transports et sur lequel il y a évidemment beaucoup à dire. Et puis le troisième point qui est par beaucoup de côtés le plus important, c'est de d'éliminer tout ce qui n'est pas énergie renouvelable. Et énergie renouvelable, ça veut dire très largement, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, l'énergie hydraulique, et en particulier l'électricité hydraulique, qui est de loin le plus important des renouvelables dans tous les pays du monde, pratiquement. Et deux, le solaire et l'éolien. Mais le solaire et l'éolien sont dans une classe à part, parce que l'hydraulique, tout le monde est d'accord pour dire que c'est très bien, personne n'est contre l'hydraulique. Le problème est que il y a un nombre de rivières et un nombre de possibilités d'avoir des lacs de barrage limités dans beaucoup de pays, que ces possibilités ont déjà été, dans un pays comme la France, ont déjà été mises en œuvre. Alors, c'est pas vrai dans tous les pays du monde. Il y a en Afrique en particulier un très grand nombre de très grands fleuves qui n'ont pas encore été harnachés, sur lesquels on n'a pas mis de harnais et pour lesquels il y a des investissements à faire qui permettront de produire une électricité sans CO2.
C'est l'occasion de rappeler que tous ces pays, vous les connaissez bien puisque vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé, en fait.
J'ai beaucoup voyagé.
Dans quasiment tous les pays du monde quand on lit le CV.
Oui, j'ai été dans beaucoup d'endroits pour des périodes plus ou moins longues, mais
ce qui veut dire que vous savez de quoi vous parlez, c'est important.
J'ai effectivement fait du terrain du Zaïre.
C'est pas neutre.
Au Bangladesh, en passant par
la Corée, etc.
Par l'Éthiopie, par la Corée, par toute l'Amérique latine en particulier. Mais enfin, oui, et j'ai travaillé dans de bonnes conditions parce que j'avais une casquette Banque mondiale et qui ouvre beaucoup de portes et qui gagne beaucoup de temps parce que même quand j'y étais pour faire des études, des analyses économiques, les interlocuteurs se disent toujours, faut être gentil avec lui parce que il va peut-être quelques centaines de millions à la clé, donc on va lui donner tous les chiffres qu'il demande, même si on voit pas très bien à quoi il rime. Donc j'ai effectivement appris beaucoup plus que ne peut le faire un touriste évidemment, et même plus que ne peut le faire un universitaire qui n'a pas les mêmes entrées dans les systèmes. Donc il y a des pays où il y a beaucoup d'hydraulique qui peut être mis en œuvre, mais ceci n'a rien à voir avec l'éolien et le solaire. Et en réalité, quand on parle d'augmenter les énergies renouvelables, on parle de solaire et d'éolien, et même on parle presque uniquement d'électricité solaire et d'électricité éolienne. Parce que la seule façon qu'on a d'utiliser l'énergie du soleil, qui est très réelle évidemment, puisque le soleil nous chauffe quand il n'y a pas de
nuages. Quand il y en a, en fait. Voilà, c'est ça, c'est quand il y en a.
Beaucoup la nuit, évidemment, et que le vent aussi, depuis belle lurette, est utilisé pour produire un peu d'énergie. La seule façon que l'on a de l'utiliser, c'est d'en fabriquer de l'électricité. Donc, quand je dis que je m'intéresse à l'électricité solaire et l'éolienne, je veux dire par là que je m'intéresse à un gros morceau, disons les deux tiers au moins, de ce qu'on appelle l'économie du climat.
D'accord. Oui, parce que c'est lié. Or, en France, cette électricité-là, c'est 25% à peine de notre consommation. C'est rien, en fait.
25%? Vous plaisantez. Non. C'est 5%.
5%.
C'est 5% de l'électricité, et l'électricité elle-même n'est que 40% de l'énergie qui est consommée.
D'accord, parce qu'avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, on voit des éoliennes maintenant qui fleurissent partout, et elles fleurissent pas toutes seules, évidemment. On voit des champs de...
Alors, il y a une confusion que Rémi souligne assez souvent, hein, qui est importante, c'est que quand on parle d'énergie renouvelable, pour atteindre des chiffres un peu plus importants, on met précisément l'hydrolien dedans.
Oui,
et d'accord. Ah oui, ça fausse les chiffres.
Parce qu'effectivement, l'hydraulique est une énergie renouvelable au sens strict.
Bien sûr.
Mais, donc, j'aime bien le terme qu'emploie Rémi pour distinguer le solaire et l'éolien de l'hydraulique, c'est l'énergie intermittente.
C'est ça, parce que l'une des caractéristiques les plus importantes, sur lesquelles on aura peut-être l'occasion de revenir, c'est justement le fait que l'électricité éolienne et l'électricité solaire sont des électricités intermittentes. Intermittentes, ça veut dire qu'elles ne fonctionnent pas tout le temps.
Pas tout le temps, oui.
Tout le monde comprend ça facilement, parce que on voit bien qu'il y a des moments où le soleil est couché, et à ce moment-là, le solaire ne produit pas d'électricité, même s'il y a des gens qui parfois vous disent le contraire. Je me souviens de quelqu'un sur une radio importante qui expliquait que la France faisait face aux pointes d'hiver grâce à l'électricité solaire allemande. Alors j'ai beaucoup de respect pour les ingénieurs allemands, ils sont capables de faire beaucoup de choses, mais ils sont pas capables de faire de l'électricité à 9 heures du soir en hiver. Et pour l'éolien, le problème se pose un peu de la même façon. Il faut que le vent souffle, et qu'il souffle ni trop peu, ni trop, parce que si c'est la tempête, les éoliennes vaut mieux les débrancher, parce qu'elles risqueraient de s'emballer et de casser. Et puis, s'il ne souffle pas beaucoup, ben, il n'y a pas d'électricité du tout qui est fabriquée. Il y a d'ailleurs une chose qui est très jolie. On a à Paris, il y a 4-5 ans, la municipalité a installé des éoliennes urbaines sur le toit de ce qui s'appelle la Maison de l'Air, qui est la Maison de l'Air, c'est un bâtiment du côté de Belleville.
D'accord.
C'est assez haut, d'ailleurs. C'est l'un des endroits les plus hauts de Paris.
Ce qui a du sens.
Et ça a été installé à grand renfort de publicité, tous les journaux. Tout ça a été inauguré évidemment par le maire, par tout le monde, qui avec des titres dithyrambiques dans la presse que j'ai oublié, mais que je cite. Bon. On a donc installé deux mini-éoliennes. Et alors, un an après, j'ai eu la curiosité d'aller voir combien d'électricité ces mini-éoliennes avaient produit. Et la réponse était 0 kWh.
Mais comment c'est possible? Parce que trop de vent ou pas assez de vent?
C'est possible parce que il y a des tas de margoulins dans ce domaine. Et ces margoulins avaient vendu à la ville de Paris l'idée qu'il fallait, c'était pas des grosses éoliennes, ça avait pas coûté très très cher, il y a bien d'autres gaspillages à Paris et ailleurs, mais c'était quand même très très joli. Alors la ville de Paris était gênée, elle a dit ça avait un caractère expérimental. Enfin, expérimental ne veut pas dire gaspillage nécessairement, tout de même. et en tout cas, la cause en était que le vent, même sur le point le plus élevé de Paris, n'est jamais assez fort pour produire de l'électricité. Donc, intermittent veut dire que ça n'est pas tout le temps.
Pourtant, il y avait des moulins à Paris au Moyen-Âge.
Absolument, c'est vrai que...
Mais pour moudre du grain, pas peut-être pour faire de l'électricité,
évidemment.
C'était pour
moudre du grain, ce qui était extrêmement pratique, utile. Il y avait aussi des moulins à eau faisaient la même chose. Mais c'était tout de même, c'était très important à l'époque, d'ailleurs.
Mais ils tournaient pas tout le temps, d'ailleurs.
Ça a joué un rôle.
Pour les mêmes raisons, trop de vent, ils arrêtaient le moulin.
Absolument.
Mais pas assez, il n'y avait pas de moulin.
Absolument.
Donc...
Encore une fois, c'était très limité. Et ça ne fournissait qu'une énergie mécanique. Vous ne pouvez pas regarder la télévision avec un moulin à vent, ni ça, même avec un moulin
mais,
à eau.
Mais la chanson, tout le monde la connaît, hein. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite.
Oui, absolument.
Donc et, ça, c'est...
Et bien, ceci menace les éoliennes.
Ça, c'est très bien.
Et il y a des moments où on les...
C'est pour ça que donc, parfois, on en voit arrêter.
Cette électricité est intermittente. Mais il y a pire que ça, parce que elle est non seulement intermittente, mais elle est aléatoire, c'est-à-dire que on ne sait pas quand elle va fonctionner. Non seulement elle fonctionne peu d'heures par an, mais on ne sait pas à l'avance à quel moment ça va être. On sait deux ou trois choses. On sait qu'il n'y aura pas du tout, par exemple, d'électricité solaire la nuit.
La nuit.
Mais et puis il y a des mois où il y a plus de vent que d'autres. Mais on ne le sait pas. Et ça, c'est très très gênant parce que toutes les autres formes d'électricité, l'homme peut ou le personnage de qui dirige le réseau peut décider de mettre en marche une centrale thermique ou une centrale hydraulique, en particulier éventuellement une centrale nucléaire, tandis qu'on ne peut pas décider de faire marcher une éolienne ou des panneaux solaires.
Alors ça veut dire quoi? C'est une escroquerie tout ça?
Non, c'est pas une escroquerie. Non, c'est pas une escroquerie. Il y a des possibilités de produire de l'électricité. Si c'est fait à un coût qui n'est pas trop élevé, c'est tout à fait intéressant, c'est tout à fait utile. Et il y a des endroits où c'est utile et plus utile que d'autres. Ce qui est un peu une escroquerie, c'est de laisser entendre que on va remplacer tout ce que l'on a actuellement par de l'électricité éolienne ou photovoltaïque, parce que ça c'est tout à fait impossible. Alors c'est impossible en particulier pour la raison que cette électricité, enfin l'électricité en général, on ne sait pas actuellement la stocker, parce que il y a beaucoup de biens pour lesquels la demande n'est pas la même toute l'année. Pour le carburant, par exemple, on en consomme plus pour le week-end de la Pentecôte que pour un jour de semaine de novembre.
Mais je comprends pas, il y a des piles, il y a des...
Non, il y a des piles, mais les piles, c'est pratiquement rien.
Ouais.
C'est totalement négligeable. Il y a beaucoup de gens qui cherchent depuis un siècle. Peut-être on va trouver d'ailleurs un de ces jours, parce que les efforts de recherche qui sont faits actuellement dans tous les pays du monde sont considérables, et que ceux qui auront les premiers inventé une façon vraiment sérieuse de stocker de l'électricité auront tiré le gros lot, et que ça changera d'ailleurs à ce moment-là le problème des renouvelables intermittents,
bien sûr.
Que ça multipliera les possibilités d'emploi d'une façon très considérable. À l'heure actuelle, il y a un seul procédé de stockage qui est utilisé, qui a d'une façon non négligeable, ça doit être 1 ou 2%, non un peu moins que ça, oui, 1 ou 2% d'électricité en France qui est produite de cette façon-là. C'est ce qu'on appelle le pompage-turbinage, c'est-à-dire que...
Là, il faut expliquer, là, oui.
Oui, il faut expliquer ça. Vous avez, à un moment donné, vous avez trop d'électricité. La nuit, par exemple, les centrales nucléaires tournent et produisent de l'électricité, et il n'y a pas tellement de gens qui regardent la télévision au milieu de la nuit.
D'accord.
Il y a quelques industries, quand même, qui fonctionnent toute la nuit. Mais on a plutôt trop d'électricité que trop peu la nuit. Alors, on peut utiliser cette électricité pour pomper de l'eau et la remonter dans des lacs de retenue. Ce que l'on stocke, c'est pas l'électricité, c'est l'eau, en vérité. Et puis au moment où on a besoin de cette électricité, c'est-à-dire à 7h du soir, on ouvre les vannes des tuyaux qui descendent du lac de retenue vers des turbo-alternateurs et on fabrique de l'électricité. C'est le pompage et le turbinage, on fait marcher des turbines. Alors, on en a en France des lacs. Il y a un nom, des steppes, enfin peu importe. C'est des lacs de retenue. C'est très bien. Ça coûte de l'argent d'en faire, mais enfin pas tant que ça. On en a fait. Le problème, c'est qu'il faut avoir des lacs qui se prêtent à ça. Et dans un pays comme la France, on a pratiquement utilisé tout ce qu'on pouvait utiliser.
Oui, parce que c'est pas des lacs artificiels. C'est
bah, ils sont, vraiment... bah, il faut qu'ils soient, ils sont un peu artificiels, mais il faut quand même qu'il y ait des dénivellations, oui, bien sûr, faut ouais. qu'il y ait la possibilité de, d'avoir une retenue d'eau importante. Alors, il y a évidemment des pays, comme les Pays-Bas ou, le Bangladesh où vous ne pouvez pas faire de pompage turbinage. Alors, on perd un peu d'électricité, mais pas beaucoup. Je crois qu'on perd 15% ou quelque chose comme ça. On gagne en ce que c'est de l'électricité oui, inutile qui est transformée en électricité inutile et ça vaut largement les 15% qui sont perdus. Alors, il y a beaucoup de gens qui cherchent tous les 15 jours dans la presse, vous avez quelqu'un qui prétend qu'il a inventé un nouveau système plus révolutionnaire, mais la prudence consiste à attendre un petit peu que ces choses-là marchent. Alors les batteries, il y a des gens qui font des efforts pour avoir des batteries.
Et pour les smartphones et tout ça, c'est l'Eldorado aussi. Tout ce qui est smartphone, tout ce qui est mobilité aussi, on voit beaucoup de recherches sur les batteries comme ça.
Oui, mais enfin, les batteries pour des smartphones,
ça n'a rien à voir. On est bien d'accord.
Il n'y a pas besoin de beaucoup. Des petites batteries suffisent. Des toutes petites batteries même suffisent. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui marche. Moi, j'ai vu ça dans le fond de l'Éthiopie. Il y a un an, j'étais dans un village vraiment perdu qui venait d'être relié par une route, une mauvaise route, mais enfin une route pour 4x4 ou pour motocyclette, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Et j'avais demandé à ce qu'on me conduise dans ce village, je discutais avec le chef du village et ses adjoints, et ils avaient des smartphones. Alors je leur ai demandé comment ils faisaient.
C'est génial.
Et moi j'en avais pas. J'étais le seul.
Un paradoxe.
Et ils m'ont montré, ils avaient un petit panneau photovoltaïque et une petite batterie qui leur permettait de
recharger.
Dans la journée, il y a du soleil en Éthiopie, même. Et donc, ils produisaient un peu d'électricité qui était stockée. Et avec ça, ils pouvaient recharger le smartphone. Ils pouvaient même regarder une heure ou deux la télévision le soir.
C'est génial, ça.
Et ça, c'est pas du tout méprisable. Ça rend des services considérables parce que ça permet à ces gens d'être reliés avec le reste du monde et pour des questions de d'urgence sanitaire, pour des questions même de savoir quel est le prix de ce qu'ils fabriquent et ça rend des services absolument merveilleux pour eux. Ça, c'est un progrès absolument incroyable. Mais ça reste quelque chose qui est très limité. On va pas faire fonctionner des usines avec ça.
On est d'accord. Alors, à vous écouter, j'ai l'impression qu'il y a que le nucléaire, en fait, qui fonctionne vraiment, dont on puisse avoir réellement besoin. Mais je comprends pas. Vous parliez de l'Allemagne tout à l'heure. L'Allemagne a cessé le nucléaire. Donc c'est possible, l'Allemagne c'est quand même pas un pays
non, alors d'abord l'Allemagne n'a pas cessé, elle a arrêté la moitié de ses centrales, et il y en avait beaucoup moins qu'en France.
Ils déclarent qu'en 2022, dans mon souvenir, 2022 c'est terminé.
Ils disent qu'ils vont arrêter, mais ils y vont très lentement. Bon. Oui, mais ce qui se passe, c'est que l'essentiel de l'électricité en Allemagne est produite avec du charbon et du lignite, qui rejettent des quantités considérables de CO2.
Et pourtant, c'est les Verts qui ont fait arrêter le nucléaire.
Les Verts sont davantage mus par la haine du nucléaire que par l'amour des renouvelables, ce qui n'est pas peu dire.
Ça, c'est fait.
Et donc, ils ont en effet décidé d'arrêter le nucléaire, notamment, enfin, d'arrêter, de fermer la moitié de leur centrale nucléaire, mais ça veut dire que et de faire des dépenses absolument extravagantes pour subventionner de l'éolien et même du solaire. L'Allemagne du Nord n'est pas un pays
aussi, soleil,
oui. Où il y a autant de soleil qu'en Éthiopie, hein, ils s'en foutent de beaucoup. Mais la quantité d'électricité produite avec le charbon et le lignite et le gaz, c'est-à-dire avec les combustibles fossiles, n'a pas diminué du tout. Et les rejets de CO2 de l'Allemagne n'ont pas diminué du tout. Et ils sont beaucoup plus élevés que les rejets de CO2 de la France, qui eux sont très très faibles, puisque en France, le nucléaire fait 75% de l'électricité, et l'hydraulique 10%, donc ça nous met tout de suite à 85%, et on a un peu de... Et on n'a pas de charbon du tout, parce qu'on a fermé nos mines de charbon. Et donc, on produit l'une des électricités les moins carbonées du globe.
Benoît ?
Oui, en termes de questions autour du climat, on a effectivement un petit peu cette schizophrénie de la part des mouvements écologistes que Rémi souligne, c'est que d'un côté ils sont les adversaires originels du nucléaire, de l'autre côté maintenant ils sont les adversaires du gaz carbonique. Et bon, c'est en vrai, on sait que c'est soit l'un soit l'autre si on veut vraiment produire de l'énergie. Donc il y a une logique, disons, là-dedans à se réfugier derrière les renouvelables, parce que c'est le seul moyen d'éviter et le nucléaire et le charbon, c'est ou même le gaz naturel et le lignite, c'est d'aller vers le renouvelable. On sait que ça ne marche pas très bien, et on constate parfois des alliances assez improbables. J'ai vu ça par exemple dans un rapport qui a été produit pour le compte de Greenpeace. Donc Greenpeace, c'est vraiment l'organisation opposée au nucléaire qui s'est structurée autour de cette opposition au départ.
Et Greenpeace qui a commencé avec le nucléaire militaire.
Alors au départ, effectivement,
et puis quand le nucléaire militaire a perdu de sa pertinence ou qu'il s'est démodé, sont reconvertis dans le nucléaire civil.
Contre le nucléaire civil. Oui, c'est très bien raconté par Patrick Moore, qui est un des fondateurs de Greenpeace et qui a quitté Greenpeace précisément au moment de cette évolution qui était pas du tout inscrite dans l'idée originelle de Greenpeace. Mais toujours est-il que donc Greenpeace a produit ou a commandité un rapport sur l'évolution du climat en France, qui est paru en 2005 et qui a été fait principalement donc par les principaux climatologues français. Et ces climatologues, en l'occurrence, sont de l'Institut Pierre-Simon Laplace, dont l'un des organismes de tutelle n'est autre que le Commissariat à l'énergie atomique. Donc on a une sorte d'alliance des contraires, hein, qui peut aussi expliquer pourquoi c'est si difficile de parler de ce sujet-là. Je parle plus du climat, moins des énergies, on est un peu dans ce regard-là sur climat et énergie. C'est que quand on arrive comme ça, quand une affaire comme le climat arrive comme ça à marier les contraires, à les faire s'entendre, c'est vrai que c'est difficile de trouver vraiment un point d'entrée pour s'y opposer.
C'est curieux. Oui. Mais alors, c'est curieux parce que la frénésie antinucléaire est quand même plutôt l'Allemagne, l'Angleterre un petit peu, les pays du Nord. En France, pas tellement. On n'a pas peur du nucléaire en France.
Il n'empêche que le nucléaire n'est pas très populaire en France. Oui. Et que les renouvelables sont très populaires.
Parce qu'il y a un lobbying très fort,
parce qu'il y a une désinformation constante. Vous-même, à l'instant, vous avez lancé le pourcentage de 25%.
Oui. J'en ai d'autres, des comme
c'est-à-dire
ça.
C'est-à-dire 5 fois trop. Mais la désinformation caractérise le secteur. Je peux en donner des exemples parce que c'est important et intéressant. L'un des plus lamentables, c'est Madame Corinne Lepage, qui il y a 2 ans, 2015, à la demande du ministère du développement durable, comme l'on dit, ou de l'environnement, a rédigé un rapport avec un groupe de 25 personnes qu'elle avait choisi, prétendument des experts. Dans ce rapport, elle écrit noir sur blanc: la production d'électricité solaire dans le monde représente 10% de la production d'électricité du monde. Le chiffre correct, très facile à vérifier en trois coups d'Internet, c'est 0,8. Alors, une erreur de 1 à 12 ou 13, c'est quand même beaucoup.
Non.
Il y a un certain nombre de milieux dans l'université, par exemple, quelqu'un qui ferait une erreur de ce calibre-là, ça servirait pas sa carrière beaucoup, je vous assure. Dans les affaires, un cadre supérieur qui se tromperait de 1 à 12 sur un marché, il aurait des ennuis. Et cette erreur-là, c'est pas n'importe quelle erreur. D'abord, c'est quelqu'un de très connu, qui a été ministre de l'Environnement, qui est considéré comme une experte de ces questions, qui est très souvent interrogée, et qui a des idées sur ces choses. Donc, c'est pas n'importe qui. Deuxièmement, c'est pas elle toute seule. Elle avait un rapport qui a été écrit avec 25 ou 30 personnes qui ont toutes lu et qui n'ont pas
réagi,
corrigé. Mais... plus tout le personnel du ministère de l'équipement qui était à sa disposition pour faire ce rapport. Donc c'est pas un point de vue individuel, c'est un point de vue de l'élite qui nous gouverne. Hein. Ensuite, c'est un texte écrit, c'est pas une bêtise que l'on dit
oui, oui.
dans un débat où tout le monde peut se tromper. C'est vraiment quelque chose de d'organiser ouais. dans un rapport écrit. Donc quand on en est à ce niveau de désinformation, c'est quand même très très inquiétant.
Et personne n'a rien dit. Aucun média n'a réagi.
Et aucun média n'a réagi. Aucun des climatologues patentés qui préconisent ça n'a trouvé à redire. Mais parce qu'on voit ça tous les jours. Je peux vous en donner d'autres. Il y a deux mois, il y a eu une vague de froid. Cette vague de froid a causé un problème pour l'alimentation en électricité. On était au bord de la grande panne. On a vraiment ramassé tous les fonds de tiroir pour y faire face.
Ça paraît fou.
La ministre de ça c'est un fait ça pas mmh. ça c'est la ministre Ségolène Royal a fait une déclaration en disant on a fait elle a pris une journée le 17 janvier le 17 janvier a-t-elle dit les renouvelables ont produit autant d'électricité que 8 centrales nucléaires. Alors d'abord, c'était faux, c'était un mensonge pur et simple, parce que vous regardez les chiffres qui sont facilement disponibles. On a en temps réel la production heure par heure.
Ah, c'est disponible, enfin, tout le monde peut regarder.
RTE, vous tapez Eco 2 Mix et vous avez, à l'heure qu'il est, vous faites apparaître la production de chacune des filières.
D'accord.
Vous pouvez savoir quelle est la production à l'heure actuelle d'éolien, de nucléaire. Donc c'est pas très difficile de vérifier. Le chiffre correct pour cette journée, c'était juste la moitié, 4. Mais c'est rien parce que elle avait choisi cette journée du 17 et moi j'ai regardé ce qu'il en était pour l'ensemble des journées de la semaine. Ça nous ramenait à 3. Et encore. Et il se trouve, et ensuite, le chiffre pour l'ensemble de la journée n'a aucun intérêt, aucune signification par rapport à la pointe. La pointe, c'est à 7 heures du soir.
Oui.
Donc, si l'on regarde ce qui se passe à 7 heures du soir, où il n'y a plus du tout
de
solaire, il n'y a plus que l'éolien, on était à l'équivalent de 2 centrales.
C'est incroyable.
Donc, on est dans une désinformation grossière, quoi, qui passe comme une lettre à la poste, un peu parce que ces choses sont compliquées, il faut faire un minimum d'investissement intellectuel pour comprendre ces choses-là, que les journalistes n'aiment pas trop les chiffres, que ceux qui savent n'ont pas envie de dire parce que c'est pas bon pour leur carrière. On est dans un domaine de désinformation. Et l'erreur que vous faites, croire qu'on est à 25%, est très facile à comprendre parce que vous entendez tous les jours des chiffres qui suggèrent qu'on est bien au-delà. On est à 5,5% en France, ça augmente d'année en année. Pour 2017, on est peut-être à 7%, à 6%, certainement pas plus.
D'accord.
Mais il est intéressant d'ailleurs de voir que de situer ce 7% par rapport à l'ensemble des pays du monde. Dans le monde entier, on est du côté de 4%. Il y a plusieurs grands pays qui sont du côté de la France, du côté de 5%. Il y a la Chine et il y a les États-Unis. Alors la Chine nous est présentée parfois comme étant un modèle en matière d'énergie renouvelable. C'est une mauvaise plaisanterie. La Chine fait beaucoup moins bien que nous parce qu'ils ont moins de nucléaire, donc 60% de leur électricité vient du charbon, et donc ils rejettent énormément de CO2. Donc la Chine est à peu près au même niveau que nous. En fait, il n'y a que 5 pays où ce taux de pénétration, c'est-à-dire le rapport de l'électricité solaire et éolienne au total de l'électricité, à l'heure actuelle, dépasse 10%. Il y a 5 pays.
D'accord.
Il y a le Danemark qui vient devant tout le monde, mais qui n'est pas très significatif parce que le Danemark fonctionne très étroitement avec la Norvège et la Suède. C'est comme si c'est pratiquement comme si on parlait de la Bretagne par rapport à la France.
Oui,
quoi. Donc c'est pas ça. Sans le l'hydraulique norvégien nucléaire suédois, le Danemark ne pourrait pas fonctionner. Et il fonctionne aussi avec beaucoup de charbon. 40 ou 50% de son électricité vient du charbon. Et il est maintenant du côté de 50%. Mais autrement, vous avez l'Allemagne et l'Espagne, qui sont du côté de 20%, 21%, 22%. Et puis vous avez le Royaume-Uni et l'Italie, 15%. Et après, on tombe dans les 5 ou 6% de la France et d'autres pays. Et si on prend des zones comme l'Afrique, on est à 0,5%. Enfin, ça n'existe pas, en dépit du soleil.
En dépit du soleil, ce qui est paradoxal, il devrait...
C'est paradoxal ou pas paradoxal. De toute façon, il consomme très peu d'électricité. Toute l'Afrique consomme moins d'électricité que la France.
Ah oui. Grand blanc, c'est
le même, et encore plus de la moitié de l'électricité consommée en Afrique l'est par trois pays qui sont l'Afrique du Sud et l'Égypte et l'Algérie. Si vous prenez le reste, qui fait quand même un beau milliard d'habitants, on est à la moitié de l'électricité de la France. C'est dramatique pour ce pays, parce qu'on ne peut pas se développer sans électricité. Si les gens ne peuvent pas lire le soir, imaginez là, pour la qualité de l'enseignement, c'est terrible.
Ceci explique
cela. Aucune industrie ne peut fonctionner. Enfin, l'électricité est absolument indispensable.
Et pourtant, ils ont le soleil.
Au développement.
Il devrait y avoir des champs de...
Oui, mais alors là, on va rentrer dans les raisons pour lesquelles il est très difficile d'aller au-delà.
C'était ma prochaine question.
On n'est même pas sûr qu'on doit y aller.
Justement, est-ce qu'on doit et comment? Parce que si je vous écoute, tous les deux, il faudrait couvrir la France, enfin, tous les continents d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques, ce qui ne servirait pas à grand chose.
Alors, il y a...
À moins qu'il y ait autre chose.
Il y a autre chose, en effet. Il y a un loup. Il y en a même trois. Il y a un loup. Il y a une question de coût direct.
Oui.
Il y a une question de coût indirect. Et il y a une question d'intermittence. Dont on a parlé déjà.
Oui.
Alors, le coût direct. Le problème est que l'éolien et le solaire coûtent très cher. on lit dans les manuels scolaires en France, que j'ai regardé un jour, je me suis donné le mal d'aller regarder les 5 ou 6 manuels scolaires qui, pour la classe de, je sais plus si c'est seconde et première, traitent de ces questions-là. J'étais effrayé par la propagande incroyable que l'on trouve dans ces manuels scolaires. On vous explique, alors c'est écrit en toutes lettres que il s'agit d'une énergie gratuite.
C'est ce que je pense aussi. Le soleil et le vent, c'est gratuit.
Le soleil, c'est la plus coûteuse de toutes les électricités qui existent.
Ça commence bien.
Les coûts, alors c'est très compliqué les coûts, parce qu'il y a tout plein de façons de définir les coûts, et que ça change, et que c'est pas exactement la même chose partout. Mais enfin, les coûts, en gros, du solaire sont extrêmement élevés. Je ne veux pas donner trop de chiffres parce que ça alourdirait peut-être
Vous entendez par là pour fabriquer les panneaux ou pour
Il y a un, fabriquer les panneaux, deux, les transporter depuis la Chine et puis dans le fond du Cantal et les monter. Et trois, il faut relier ça au réseau.
Question idiote, pour les fabriquer et les transporter, il faut bien les faire venir par camion, bateau, avion, je ne sais quoi, ça, il y a du CO2 quand même là-dedans.
Absolument. Il y a des gens qui l'ont calculé.
D'accord, oui, c'est pas zéro.
Il y a de l'énergie, oui. Et il y a tant que le panneau solaire produise plus d'énergie qu'il en a consommé à être fabriqué, est un temps qui se compte en années aujourd'hui. Alors, je sais pas le chiffre exact, mais il faut plusieurs années avant que ce soit rentable. Donc, un panneau solaire qui s'abîme, qu'il faut entretenir.
Enfin,
c'est très très lourd. Qu'ils produisent vraiment de l'énergie.
Absolument. Mais enfin, il finit par y arriver quand même. Mais enfin, tout ça coûte cher. Et pour l'éolien, c'est pareil. Il faut avoir ces énormes.
Il faut les amener aussi.
Ces énormes mâts qui font maintenant, qui font 100 mètres de hauteur.
Ils sont immondes.
Plus des pales de 50 mètres. Ce qui d'ailleurs a des effets sur le paysage qui sont absolument incroyables. Il y a en France seulement 10 cathédrales qui ont plus de 100 mètres d'eau.
Oui.
Notre-Dame fait 96 mètres, quelque chose comme ça.
Et alors Beauvais. Et,
oui, il y en a une dizaine. Oui, oui. Bon, vous trouvez ça sans difficulté sur Internet. Hein. On a en France à peu près 10 000 éoliennes. Maintenant, alors elles sont pas toutes peut-être aussi hautes que ça, mais enfin, avant les éoliennes, des monuments ou des constructions humaines de plus de 100 mètres, vous en aviez très peu. Vous aviez 10 cathédrales et puis il y a un certain nombre de stations d'émission de radio et de télévision qui sont hautes. Enfin, c'est quand même assez discret, ça se voit pas trop. Il y a quelques grands bâtiments comme la tour Montparnasse, mais on arrive au total à 150 ou 200.
C'est incroyable.
C'est-à-dire que en 10 ans, on a construit infiniment plus d'éléments verticaux dans le paysage que en 10 siècles précédents.
Raoul Glaber disait au Moyen-Âge, la France s'est couverte d'un blanc manteau d'église, mais là, c'est un blanc manteau d'éoliennes.
Mais on peut pas utiliser le mot de manteau pour décrire les deux phénomènes. Non. Dans un cas, il y en a quelques centaines, dans l'autre, il y en a quelques milliers. Mais je reviens à la question du coût. Donc, les coûts ont été très élevés. Ils diminuent. Ils ont beaucoup diminué. Mais il continue d'être parmi les plus élevés. Ça, c'est un premier inconvénient. Un deuxième inconvénient, c'est la question de l'intermittence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas n'avoir que de l'éolien et du solaire parce que vous n'arriverez pas à faire face à la demande. La demande est particulièrement irrégulière dans le temps, en nombre d'heures, vous n'y arriverez pas. Et donc, il faut avoir des filets de sécurité. Des filets de sécurité sont souvent des centrales au charbon ou au gaz, malheureusement. Et le troisième inconvénient, c'est qu'à côté de ces coûts, qui sont des coûts directs que supportent les gens qui construisent, vous avez toutes sortes de coûts indirects. Vous avez des coûts de transport qui sont plus élevés. Vous avez des coûts de raccordement au réseau qui sont beaucoup plus élevée. C'est facile à comprendre parce que des centrales nucléaires, vous en avez 20 en France. Il y a 50 réacteurs, mais il y a plusieurs centrales où il y a 2 ou 3 réacteurs d'un coup. Donc vous avez déjà des fils qui transportent l'électricité à partir d'un nombre limité, d'un nombre très limité de points. En France, puis d'ailleurs je sais pas quoi, 50 centrales hydrauliques, et puis 15 ou 20 centrales thermiques, ça fait pas beaucoup.
J'ai compris. Là on multiplie les points en fait.
Donc plus vous avez de points, plus vous avez de traits dans les réseaux, et il faut les construire. Ça coûte très cher, les gens n'aiment pas trop que l'on avoir des tas de fils dans leur dans leur jardin, souvent sur de très grandes distances. C'est l'un des problèmes majeurs de l'Allemagne, parce que les centrales éoliennes sont dans la mer du Nord, sur les bords de la Baltique, c'est la Bavière qui est le centre industriel et qui consomme l'électricité. Donc, et il faut avoir des câbles de 600 km et les gens n'ont pas envie d'avoir ça sur leur tête.
Donc clairement,
ça coûte très très cher. Donc vous avez des vraies difficultés à aller plus loin.
D'accord.
La question des coûts est quand même très importante, parce que il faut le souligner, les renouvelables intermittents ne se sont développés que grâce à des subventions considérables.
Évidemment, qui coûtent aussi.
À des subventions considérables. Bon. Alors, ces subventions ne viennent pas du budget, d'ailleurs, du budget de l'État. Elles prennent la forme d'une augmentation du prix de l'électricité que vous payez. Vous pouvez prendre votre facture d'électricité. Et vous verrez, il y a une ligne qui s'appelle CSPE, ça veut dire contribution au service public de l'électricité. Et vous verrez, alors c'est pas uniquement les renouvelables, ça sert aussi à payer l'électricité des îles, de la Corse, ou de la Guadeloupe, ou des Comores, très cher.
Pas la Guyane, hein, qui n'est pas une île.
Mais ça sert aussi à payer l'électricité de la Guyane, parce que on pense que les habitants de la Guyane, qui sont français, doivent payer l'électricité au même prix que les habitants de Bourgogne. Ce qui est un point de vue qui n'est pas absurde, évidemment. Et donc, vous payez un peu dans la CSPE pour cela. Vous avez aussi de quoi payer pour les gens les plus démunis, pour les plus pauvres. Mais l'essentiel de la CSPE, c'est les subventions aux renouvelables.
D'accord.
Et tous les pays qui se sont lancés beaucoup dans le renouvelable, en particulier l'Allemagne et l'Espagne,
font pareil.
Paient des sommes considérables. L'Allemagne, en subvention, continue de payer quelque chose qui est maintenant du côté de 25 milliards par an. 25 milliards,
c'est monstrueux.
Ça dit peut-être pas grand-chose à tout le monde, mais le budget de la justice, qui est notoirement insuffisant, est de 7 milliards.
Ah, d'accord.
En France...
Je crois que l'éducation est à 13, quelque chose comme ça.
L'éducation, on est un peu... l'enseignement supérieur. L'éducation secondaire et primaire, c'est certainement beaucoup plus que d'accord. ça. Mais l'idée que les Allemands paient 3 fois ou 4 fois le budget du ministère de la Justice pour leur électricité renouvelable est un peu inquiétante. En Espagne, c'était la même chose. J'emploie l'imparfait parce que le gouvernement espagnol, il y a quelques années, a dit stop, on ne peut plus. On ne peut plus continuer à laisser ça dériver et augmenter. Et donc, ils ont arrêté les subventions, mais les subventions aux constructions nouvelles.
Bien sûr.
Qui se sont, du coup, arrêtées totalement.
Mais...
Donc, le parc éolien et solaire en Espagne n'augmente plus du tout.
Donc, si je vous comprends bien, on est en train de tous ces pays, subventionnent pour cette énergie renouvelable qui rapporte peu. Donc j'ai l'impression qu'on paye beaucoup pour un rapport...
Rapporter peu est une litote. Elle rapporte aux gens qui gagnent de l'argent là-dedans. C'est un point dont il faut qu'on parle, parce que tous ces milliards et ces centaines de milliards, ils ne sont pas perdus pour tout le monde, mais ils sont perdus pour beaucoup de gens. Alors, dans des pays qui utilisent ça pour réduire leur CO2, on n'est pas obligé, mais on peut dire il y a une sorte de justification. Mais dans des pays qui ne font pas ça, qui s'en servent pour réduire le nucléaire, comme l'Allemagne le fait et comme la France projette de le faire, c'est pas quelque chose de très désirable. D'autant plus que, c'est un point sur lequel il faut insister, cet impôt sur les renouvelables, on peut l'appeler un impôt. Il est d'ailleurs dans les comptables nationaux, ne s'y trompent pas. Et c'est compté dans les prélèvements obligatoires en France.
Oui, je ne serais pas inquiet.
Cet impôt est un impôt particulièrement régressif. Pourquoi? Parce que les ménages, en particulier, consomment relativement à leurs revenus d'autant plus d'électricité qu'ils sont pauvres. C'est-à-dire que un riche va dépenser 2% de son revenu en électricité et un pauvre 3 ou 4%. C'est comme ça. Ça veut dire que lorsque vous augmentez, par rapport aux revenus, les pauvres payent plus, beaucoup plus que les riches. C'est la définition même d'un impôt régressif. On se plaint parfois de la TVA, dont on dit que c'est un impôt régressif, mais il l'est beaucoup moins que cet impôt-là. Non. Et donc c'est dans les pays qui sont très très avancés dans les renouvelables, il en résulte aussi que le prix auquel l'électricité est vendue est beaucoup plus élevé que dans les pays qui ne se sont pas engagés dans le renouvelable. C'est-à-dire que quand on regarde, on peut faire un graphique qui montre le prix de l'électricité vendue aux ménages ou aux entreprises, c'est pas la même chose, en fonction du taux de pénétration, vous avez une vraie droite qui aligne tous les points. C'est-à-dire que les pays où le taux est le plus élevé, c'est-à-dire l'Allemagne et le Danemark, sont les pays où l'électricité est vendue le plus élevé, le plus cher. D'accord. L'Allemagne, par exemple, pour rester dans des choses simples, le prix de l'électricité payé par les ménages allemands est juste le double du prix de l'électricité payé par les ménages français. Le double. Et les pays qui ne se sont pas lancés, les pays européens, qui ne se sont pas lancés dans les renouvelables, paient beaucoup moins que la France, y compris les États-Unis, qui pourtant s'est lancé dans les renouvelables. Enfin, et dans ces pays-là, en Allemagne en particulier, mais en Angleterre aussi, on voit apparaître une véritable pauvreté énergétique. Il y a des gens qui ne peuvent plus payer leur électricité et qui cessent de s'éclairer ou de cuisiner ou de se chauffer. Ça. Il y a aujourd'hui plusieurs centaines de milliers de personnes en Allemagne et au Royaume-Uni qui sont dans cette situation.
Mais l'Allemagne est citée, en ce moment on est encore dans les élections présidentielles, citée toujours en modèle.
L'Allemagne est un modèle dans beaucoup de domaines, d'ailleurs qu'elle ait une économie qui globalement fonctionne très bien, fait qu'elle peut se payer ce genre de choses, je sais pas quel est le mot qu'il faut employer.
Danseuse serait un bon mot.
Plus facilement qu'un pays comme l'Allemagne, qui, comme je vous dis, a pratiquement
l'Espagne.
Comme l'Espagne, qui a pratiquement arrêté l'augmentation.
Alors quelle serait la solution, parce qu'on arrive déjà plus de 50 minutes. Est-ce qu'il y a une solution?
Je crois qu'il n'y a pas de solution générale, parce que tous les pays sont très différents les uns des autres. Il y a un cas qui est très clair, c'est le cas de la France. Mais c'est un cas qui est un peu unique, il faut bien distinguer. Dans le cas de la France, il n'y a aucune raison d'investir dans l'éolien et le solaire. Pourquoi ? Parce que la demande d'électricité n'augmente pas en France, ni d'ailleurs en Europe, elle stagne. D'accord. Partout. On ne peut pas toucher, et on ne désire pas toucher à l'hydraulique. On ne peut pas beaucoup toucher au thermique parce qu'il y en a très peu. Donc ça veut dire que tout ce que l'on fait en renouvelable, il faut qu'on le défasse en nucléaire. Et si vous regardez ce qui est prévu, il y a une loi de transition énergétique qui dit que on va diminuer le nucléaire jusqu'à 50%, c'est-à-dire qu'on va diminuer d'un tiers le nucléaire, ça veut dire qu'on va augmenter d'un tiers l'électricité éolienne et qu'on va augmenter d'un tiers. Je m'exprime mal. On va diminuer d'un tiers. Faut parler en terawattheure, en quantité d'électricité. Mmh. On va diminuer de 120 terawattheures la production nucléaire, si on réalise la transition énergétique, ce qui ne se fera pas. Mais si on le faisait, on diminuerait de 130 terawattheures et on augmenterait de 130 terawattheures la production d'électricité éolienne et solaire. C'est-à-dire qu'on la multiplierait par 5. Elle est actuellement d'à peu près 30 terawattheures. Multipliée par 5, ça nous coûterait des sommes extravagantes. Ça nous coûterait du côté de, en investissement, ça nous coûterait du côté de 250 milliards à dépenser d'ici 9 ans. D'accord. C'est-à-dire plus de 20 milliards par an.
Qu'on a, évidemment.
Chacun sait. Il est très facile de les trouver.
D'accord.
Est-ce que ça va économiser du CO2 ? Pas un gramme, parce qu'on va substituer du nucléaire décarboné par de l'éolien et du solaire décarboné. Donc dans le cas de la France, il n'y a aucune raison, et c'est un gaspillage totalement insensé de le faire. Mais la France est un cas très particulier, et le restera pas, parce qu'il y aura bien un jour où les centrales nucléaires françaises seront à bout de souffle et où il faudra les remplacer ou faire. Alors, quand on est dans un pays où il y a à choisir entre du nucléaire et de l'éolien et du solaire, là, les choses sont moins claires. On peut argumenter pour dire que l'un est aussi intéressant que l'autre, en dépit de tous les coups qu'on a dit. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette comparaison. Mais on est parti pour une des augmentations, mais modérées, on n'est pas parti pour des taux de pénétration de 200%. Il y a des documents officiels français publiés sous le timbre de la République qui expliquent que l'on peut faire du 100% renouvelable.
Mais j'ai hâte de voir ça.
L'ADEME, moi je les ai vus, je les ai lus, je peux vous dire ce que j'en pense, mais ça n'existe nulle part ailleurs. Je vous dis, à l'exception du Danemark qui ne compte pas, on est à 20%. Alors on va augmenter un peu dans les pays d'Europe, la Chine va augmenter un peu, donc dans 25-30 ans, les 4-5% du globe seront sans doute du côté de 6-7%, les pays les plus avancés seront du côté de 15%, la Chine sera du côté des États-Unis seront du côté de 15%.
Et pourtant nos centrales sont quand même certaines à bout de souffle, non ?
Non.
Malgré tout, non. Ça aussi,
non,
c'est...
Non, ça c'est un mythe. D'abord, c'est une centrale, il y a beaucoup de morceaux dans la centrale. Ouais. Hein, il y a des choses qui ne s'usent pas du tout. Le terrain de la centrale, les parkings de la centrale, ils peuvent encore durer très longtemps. En plus de ça, dans une centrale nucléaire, vous avez une grande partie, l'essentiel d'ailleurs, quand vous visitez une centrale nucléaire, c'est les turbo-alternateurs, les endroits où on transforme la chaleur produite dans le cœur, où on la transforme en électricité. ces turbo-alternateurs nucléaires, c'est exactement les mêmes que ceux qu'il y a dans une centrale thermique où on fait de la chaleur que l'on transforme en électricité. Et alors il y a des morceaux qui s'usent, oui. Il y a des valves qu'il faut changer, il y a des peut-être des moteurs électriques qu'il faut changer. Moi, je ne suis pas ingénieur, mais je vois bien je connais l'image du couteau dont on change la lame, puis le manche, puis la virole, puis la lame, puis le manche, puis la virole, et qui est tout. Est-ce que c'est le même couteau? Vous allez au Japon, vous voyez tous ces temples en bois. On vous dit ils datent du 12e siècle. Oui, mais les poutres ont été changées 4 fois,
bien sûr,
ou 10 fois. Ouais, tout ça est fait sous la surveillance de l'agence de sûreté nucléaire, où il y a des gens tout à fait sérieux. Et s'ils disent que l'on peut faire, alors ils disent qu'il faut changer parfois des choses. On change, on s'apprête à dépenser 1 milliard par centrale, ce qui est pas négligeable, hein, pour pouvoir les continuer à fonctionner encore pendant 20 années. Mais enfin, tout ça effectivement ne durera pas autant que les impôts. Et il y a des choses à dire. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, mais sur lequel je voudrais insister. Allez-y. Quand même dans ces histoires d'économie, c'est le contraste qu'il y a entre l'image de l'éolien et du solaire qui nous est présentée comme étant une image un peu bucolique. Vous avez toujours un tournesol, vous avez toujours un paysage de montagne avec un
ça fait ruisseau, vendre.
avec des fleurs. Et puis la réalité qui est celle d'une industrie lourde, d'un big business, avec des grosses entreprises multinationales, avec des systèmes de banques et de finances. C'est l'un des secteurs les plus capitalistiques qui existent. Et on en a de bonnes informations là-dessus, en particulier parce que Monsieur Bloomberg, qui était un milliardaire, qui était maire de New York, il a sa fortune vient de ce qu'il dirige une agence d'information économique très prisée à Wall Street et très très utile. Et il a vu combien ce secteur devenait important économiquement. Et il a créé une filiale qui s'appelle Bloomberg New Energy Finance, c'est-à-dire Bloomberg, la finance des énergies nouvelles, pour vendre très cher des conseils à tous les gens qui veulent investir dans ce domaine. Et il publie en particulier, en liaison d'ailleurs avec le programme des Nations Unies pour l'environnement, il publie un petit livre qui recense tous les investissements qui sont faits dans les renouvelables chaque année dans le monde, année par année, pays par groupe de pays par groupe de pays, et distinguant entre l'éolien, le solaire et autres. On en est du côté de 300 milliards par an d'investissement. Et j'ai cherché à comparer ça avec les investissements dans l'industrie automobile dans le monde, hein, y compris en Chine et aux États-Unis et au Brésil et ailleurs. On est à 200 milliards seulement.
Incroyable.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, capitalistiquement, les renouvelables, ça pèse plus lourd que l'industrie automobile. L'industrie automobile est toujours présentée comme la grosse industrie lourde, les gros capitaux, les lobbies puissants, etc. C'est rien à côté de... Enfin, rien. Je retire ce mot qui
est plus petit,
trop élevé, mais c'est moins et nettement moins, il n'y a pas photo, que ce qu'il y a dans le domaine de l'énergie renouvelable. Donc, on se moque un peu de nous quand on répand cette image. On a l'impression que l'énergie renouvelable, c'est un brave paysan qui installe sur son étable quelques panneaux.
Il y en a. Je sais qu'il y en a.
Il y en a.
Vous en connaissez certainement.
Mais c'est absolument pas ça.
Non.
C'est même exactement le contraire de ça. Alors, moi, je suis pas des gens qui disent que leur ennemi est la finance, hein, ou leur ami, je ne sais pas. Mais
qui se présente plus.
Mais je suis bien obligé de constater que l'ami des renouvelables, c'est la finance et la grosse finance. Hein. On a des chiffres sur qui sont les grandes banques qui financent des conseils, qui réalisent des fusions dans ce domaine-là. Vous avez tout le Gotha des Goldman Sachs et des
donc ça veut dire des lobbyings extrêmement puissants, importants.
Exactement.
Et on comprend mieux. Ça fait deux émissions qu'on fait ensemble, Benoît. J'ai l'impression, alors pas d'un espèce d'énorme complot, mais j'ai l'impression, il faut toujours se poser la question, à qui profite le crime? Cette histoire de développement durable, de réchauffement climatique, ça amène des industries monstrueuses en réalité.
Absolument.
C'est un peu normal au sens où il y a une situation, il y a un air du temps, disons, et il est assez logique, je crois, d'un point de vue du marché, que des entreprises entrent là-dedans. C'est pas
qu'elles y entrent, ça me dérange pas. Est-ce que ça viendrait pas d'elles? C'est une question qu'on peut quand même se poser.
Moi, j'ai comparé ce complexe climato-industriel au fameux complexe militaro-industriel que Eisenhower avait dénoncé aux États-Unis. La comparaison est très facile à faire, quoi. C'est les mêmes rapports de personnel entre l'administration, les lobbies, les entreprises. C'est les mêmes. C'est le même poids, presque. C'est presque aussi lourd que les dépenses militaires. Les dépenses un peu moins, mais presque aussi lourd. C'est le même type de très grosses entreprises. Les dépenses militaires, c'est pas un petit armurier du coin. Hein,
clairement
c'est
pas, non. Pas,
c'est justifié de la même façon. Il y a un ennemi, l'Union soviétique, qui est terrible, qui va nous anéantir. Donc, faut pas regarder à l'argent. Il faut tout faire pour contrer cet ennemi. Il y a un ennemi qui est le CO2. Il faut pas regarder à l'argent. Quand on aime, on ne compte pas. Il faut mettre le paquet. Et il y a des gens qui s'enrichissent beaucoup dans les deux cas, avec des rentes qui se créent. Tout ça a été très étudié par les économistes. Le complexe militaro-industriel a été très très étudié, comme il est normal et raisonnable. Le complexe climato-industriel l'est moins.
C'est une belle image. Et c'est paradoxal au moment où les États-Unis viennent d'élire Donald Trump qui va stopper tout ça. En tout cas, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il voudrait. Il a du mal à arriver à...
Il va freiner, oui. Il va freiner.
Donc il y en a combien à qui ça ne va pas plaire.
Alors, oui, il y a une je reviens effectivement des États-Unis, donc j'ai pu avoir quelques informations là-dessus. Bon, elles sont peut-être pas tout à fait à jour au moment où.
En tout cas, elles sont plus fraîches que les nôtres.
Donc, ce qu'on a, d'abord, Donald Trump a pris des décisions assez lourdes sur lesquelles il sera difficile de revenir sur la politique énergétique. Donc, par exemple, le cas emblématique, c'est une de ses premières décisions, de ses premiers décrets, c'est le pipeline entre le Canada et les États-Unis, donc qui avait été bloqué par l'administration précédente pour des raisons écologiques. Donc là, on a une politique énergétique qui est en train de changer, beaucoup plus favorable au charbon et donc aux énergies disons traditionnelles,
voilà. Et donc alors au gaz
en l'occurrence, mais disons que bon, il a aussi annoncé des choses pour le charbon. Ouais. Donc on est au moins pour ce qui est de la politique énergétique, qui est quand même, comme le disait Rémi, un peu le nerf de la guerre de cette histoire de climat et la conséquence la plus directe de la politique climatique, il y a vraiment quelque chose. Pour ce qui est du climat lui-même, c'est un peu, on ne sait pas exactement où on va, parce que lui-même effectivement a fait des annonces assez fortes. Il avait l'intention de se retirer donc soit de l'accord de Paris, soit carrément de la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc c'est une décision assez importante. Et là, il semble que pour l'instant, enfin au moment où je parle, on ne sache pas tout à fait sur quel pied danser, parce que d'abord sa fille est pas d'accord, et bon, on sait que ça peut compter, et sa fille a rencontré Al Gore et semble avoir été convaincue par Al Gore qu'il fallait faire quelque chose contre le très méchant CO2, et aussi son secrétaire d'État, qui est donc Rex Tillerson, qui lui non plus n'est pas trop d'accord, et donc
c'est un pétrolier.
Oui, mais bon, en tout cas, donc c'est pas encore fait. Alors, jamais effectivement on a eu, enfin depuis, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu, disons, une fenêtre de tir aussi favorable pour en finir un petit peu avec cette affaire de climat, mais c'est pas fait. Et les gens sur place ont conscience que ce sera encore, la route est encore longue si on veut y arriver.
pour rappel, on est on enregistre cette émission le 28 mars 2017 pour ceux qui réécouteraient dans quelques mois ou années. Donc vous saurez peut-être à ce moment-là ce qu'il en sera. Rémi Prudhomme, merci infiniment. Vous avez été non seulement très clair, j'ai appris plein de trucs, c'était passionnant. Je pense que tout le monde entendra la même chose. Je suis vraiment ravi. Benoît, merci beaucoup.
Merci.
Comme d'habitude, à très bientôt pour le troisième numéro qu'on fera peut-être d'ailleurs tous les trois. Me semble-t-il, c'est en tout cas ce qui est prévu. Vous pouvez toutes et tous nous retrouver sur iTunes, n'oubliez pas les petits j'aime également sur la page Facebook Association des Climato-Réalistes. Bientôt nous ferons des lives, d'ailleurs ça va être très sympa ça aussi. Nous attendons donc, on vous attend toujours de plus en plus nombreux. Ici le dialogue est ouvert comme on dit, puisque comme dirait l'autre, même si nous ne sommes pas d'accord avec vous, nous nous battrons pour que vous puissiez le dire. Voilà, merci à toutes, merci à tous, merci à tous les deux, à très vite.
Merci.